Chapitre 4. Monsieur Mauvrier reçut son hôte avec le visage d'un homme qui, ayant beaucoup travaillé, a besoin de se détendre. Son cœur solitaire se ranimait au contact d'une vieille amitié et les enthousiasmes de Robert pour un pays que lui-même adorait le sortaient de ses préoccupations quotidiennes. Et mademoiselle Le Luron, Robert, commence-t-elle à passer dans ton esprit avant la maison de sa tante ? Robert répondit nonchalamment. Elle commence, oui. Il revoyait Jeanne, en même temps hésitante et décidée, moqueuse et soudain sérieuse, spirituelle, en se servant de la vieille inscription pour parvenir à son but. Bonne surtout, en passant sur des hésitations bien naturelles pour venir en aide à un ami malheureux. Oui, répéta lentement Robert, aujourd'hui elle m'a plu beaucoup. Je ne suis pas encore amoureux, mais nous nous connaissons mieux. Ton père sera content. Pas si vite, je t'en prie. Et cependant, j'ai été sur le point de m'engager sans attendre plus longtemps. Ah, tu vois bien. C'eût été une imprudence. J'ai vu chez Madame de Chassé des cousins futurs qui me regardaient comme un être à part. À propos, qui est donc cette Louise dont on parle avec tant d'âpreté chez les Liurans? Cet après-midi, on l'a encore fort maltraitée devant moi. Mademoiselle Louise de Saint-Mélaine. Elle est cousine proche de Madame Le Luron et de Madame de Chassé, qui étaient, comme tu le sais, des Saint-Mélaine. Cette jeune fille... Ah, elle est jeune. 25 ans, comme Jeanne, et malheureuse parce que c'est... Malheureuse ? Interrompit Robert, subitement intéressé, car jusque-là, il avait parlé de Mademoiselle de Saint-Mélaine pour éviter un autre sujet de conversation. Pourquoi malheureuse ? Elle est orpheline et ne possède que deux choses, un joli talent de violoniste et un château Renaissance bâti par un de ses ancêtres, compagnon de François Ier. Un château Renaissance ? Peut-on le visiter ? Demanda Robert avec un empressement qui fit sourire son ami. Oui, d'autant qu'il est à louer. Pourquoi ne l'habite-t-elle pas ? Parce qu'elle n'a rien ou à peu près. Ses parents sont morts en laissant une fortune dans le plus grand désordre. Les dettes payées, il restait à Mademoiselle de Saint-Mélaine 2 000 francs de rente, plus le château, le parc et quelques prairies. Elle n'a pas trouvé d'acquéreur ? Au contraire, mais elle ne veut vendre à aucun prix. Elle loue la propriété. Elle vient de perdre son locataire et en cherche un autre. Si tu veux louer... Tiens, pourquoi pas, mais j'aimerais mieux acheter. Alors Mademoiselle de Saint-Mélaine vit avec le produit de sa location et ses 2 000 francs de rente. À la rigueur, elle pourrait vivre ainsi dans un coin de loge, mais elle s'est mise courageusement à tirer parti de son talent, espérant gagner assez pour conserver toujours son petit château et venir plus tard l'habiter. Où est le mal dans tout cela ? Pourquoi ma future famille critique-t-elle tant cette jeune fille ? Pour la famille, le mal est, d'une part, d'afficher son nom comme artiste. De l'autre, de conserver une propriété qui est, pour Mademoiselle Louise, malgré la location, plutôt une charge et une entrave. Ils sont riches, pourquoi ne l'aident-ils pas ? Ils l'ont proposé, mais elle ne veut être dans la dépendance de personne. Elle a raison. Va dire cela à ses cousines. Cette indépendance et le travail qui l'oblige à livrer le nom de Saint-Mélaine au public sont, pour la famille, une cause continuelle d'agacement. Tant pis pour eux, je ne les approuve pas. Il faut tenir compte des habitudes et des susceptibilités provinciales, répondit Philippe avec indulgence. L'observation ne fut pas relevée par Robert, dont l'esprit était loin. Il pensait aux confidences de Mademoiselle Le Luron et retenait avec peine les questions directes que son amitié brûlait de poser. Il tourna autour du sujet. « La manufacture te donne beaucoup de travail, Philippe. »« Beaucoup. J'ai cependant d'excellents contremaîtres. »« Tu n'as pas d'associé ?»« Non, je dirige seul. » Il l'avait cherché en vain, cet associé. Et il rompit l'entretien avec une hâte qui attrista son ami. Robert veilla sa fenêtre ouverte. Son imagination ne percevait plus les échos d'une cour morte et d'un passé évanoui. Tout entier à son désir de sauver Philippe, il souffrait en sachant que, à quelques pas de lui, un noble cœur se dévorait silencieusement. « Il ne dort pas, se disait-il, son cabinet est éclairé. Il se perd sans doute dans une infinité de calculs pour arriver à conjurer le malheur. » Monsieur Mauvrier partait pour Tours le lendemain matin et Robert pouvait aller chez le vicaire sans craindre une surprise. L'abbé Massé était un homme de son âge, long, mince, l'air souffrant, avec une expression que M. Dautrel qualifia d'exquise. Il pensa qu'un tel regard, en étant la révélation entière d'une vie intime, mettait pour une fois son système en pièces. « Ce regard dit tout, je n'aurai rien à déchiffrer. » « Monsieur l'abbé, dit-il en se présentant, vous avez probablement entendu parler de moi. Ami de Monsieur Mauvrier, je suis venu en Touraine pour affaires particulières. » « Je le sais, monsieur. » L'abbé souriait d'une façon tellement expressive que Robert s'écria. « Sauriez-vous déjà quelle est cette affaire particulière ?»« Votre question, monsieur, prouve une ignorance bien grande des petites villes. Il n'est bruit que de votre mariage avec Mademoiselle Le Lioran. »« Petite ville ?» répéta Robert. « Quoi ? Avec les foules qui ont passé ici et mis leur seau sur la moindre pierre ?» Avec leurs sentiments, leurs idées, leurs guerres, leurs souffrances, leurs amours surtout, dont on parle encore comme d'un fait récent. Vous avez, monsieur, une façon d'envisager notre ville qui n'est pas celle des Lochois. Sauf exception, leur imagination n'est pas évocatrice. Et ne croyez-vous pas que les caquets de jadis ressemblaient souvent à ceux d'aujourd'hui ? Robert fronçait les sourcils et, poursuivant son idée, répondit « Les hommes sont des vandales, des barbares, des êtres odieux. »« Mais non, dit l'abbé, riant de cette colère subite. L'axe de leur intelligence et de leurs habitudes se déplace, voilà tout. Et à chaque époque, remarquez-le, ils ont vécu dans leur temps et se sont peu souciés des fantômes. »« Des fantômes, il y a certainement plus de vie dans ces prétendus fantômes que dans les têtes imbéciles de vos Lochois. » L'abbé étudiait Robert en se demandant si cet original ne s'était annoncé et n'était venu le voir que pour lui adresser de semblables discours. Il se rappelait bien que M. Mauvrier lui avait quelquefois parlé de son ami Dautrel en termes affectueux. « Mon mariage avec Mademoiselle Le Lioran n'est pas décidé, » reprit Robert en tournant court brusquement. « C'est pour un sujet différent et, à mon avis, bien plus intéressant que je désire vous parler, monsieur l'abbé. » « Plus intéressant que votre mariage, » répéta le jeune vicaire avec étonnement. « Vous en jugerez vous-même et je vais droit au but. Philippe, n'est-ce pas, est guetté par la ruine ? Qui vous a dit cela, monsieur ? Qu'importe, je le sais, mais je ne veux pas vous prendre en traître et je m'empresse d'ajouter que notre ami commun ne m'a rien appris. » L'abbé, embarrassé, hésitait à répondre. Il était le seul homme au monde à qui M. Mauvrier eût confié ses angoisses et il craignait de commettre une indiscrétion. « Je sais, dit-il avec réserve, qu'il court des bruits fâcheux sur la situation de Philippe. » « Monsieur l'abbé, reprit Robert d'un ton résolu, il y a des gens qui prétendent que je vis dans la lune, c'est une erreur. Et du reste, je saurai en descendre pour préciser un projet et le mener à bien. » « C'est possible, monsieur. »« C'est certain. Aussi, je vous prie, pas d'équivoque ni de réticences entre nous. Vous êtes comme moi l'ami de Mauvrier, je sais par quelqu'un dont je tairai le nom, que vous pouvez me renseigner et, par conséquent, aider à la réalisation de mon projet qui se résume en deux mots, sauver Philippe. » Le pâle visage de l'abbé avait rougi d'émotion. Fortement attaché à M. Mauvrier, ses ouvertures subites, bien qu'il n'en vît pas encore le côté sérieux, excitait au plus haut point son intérêt. « Eh bien, monsieur, dit Robert avec chaleur, complotons et voyons quel est le meilleur moyen de sauver notre ami sans le froisser. »« Il n'y en a qu'un, répondit machinalement l'abbé. Alors il faut le prendre. Lequel ? Lui trouver un associé avec des fonds. » Questionné par Robert, M. Massé expliqua que, pendant plusieurs années, Philippe avait engagé tous ses capitaux pour combattre la mauvaise fortune. Un instant, ses affaires s'étaient relevées, mais des grèves avaient de nouveau compromis sa situation. Puis la concurrence. Et, en outre de la concurrence, il avait contre lui un outillage défectueux qu'il eût fallu ou remplacer ou compléter. Or, l'argent lui manquait. Au lieu d'étendre ses affaires, continua l'abbé, il s'est vu dans l'obligation de les restreindre peu à peu, et bien qu'il lutte encore, il ne fait que reculer le moment définitif qui sera le brisement de sa vie. Intelligent et courageux, il trouvera chez les autres l'emploi de lui-même, mais... Un rôle subalterne à Philippe, allons donc, interrompit Robert. Mais il n'y aura ni catastrophe, ni brisement de vie. L'associé est trouvé, c'est moi. L'abbé ne put réprimer un sourire d'incrédulité. Vous, monsieur, vous avez des notions de la vie industrielle ?
Dieu m'en garde, répondit Robert avec indignation. Mais j'ai une grosse fortune, donc je ne dépense pas le tiers pour moi. Par conséquent, je confie à Philippe des capitaux suffisants pour relever ses affaires et les étendre. Combien faudrait-il ?
Plusieurs centaines de mille francs, probablement.
C'est possible, répondit l'abbé, entraîné par la chaleur de Robert. Et j'estime que ces capitaux, en relevant la manufacture, donneront rapidement le taux ordinaire.
Mais alors, c'est un placement avantageux. Il ne s'agit même plus d'un service à rendre. Que je suis donc heureux !
L'abbé Massé, habitué à vivre dans un milieu souvent médiocre ou terre-à-terre qui répondait bien peu à ses propres aspirations, était dilaté par l'élan et la générosité de Robert.
« Sauver Philippe est la meilleure des actions, » dit-il d'un ton ému. « Je vous l'avoue, monsieur, c'était pour moi un violent chagrin de voir sombrer un homme aussi énergique et aussi bon. »
« Mais comment n'a-t-il pas trouvé des fonds ?»
Il s'est heurté à deux refus. C'était suffisant pour qu'un caractère fier reculât devant de nouvelles démarches.
« Plus que suffisant, » dit vivement Robert.
« Enfin, » ajouta-t-il en soupirant, « ce malheureux mariage aura du moins servi à sauver un ami. Sans ce projet, je ne serais pas venu en Touraine et je n'en aurais rien su. »
Monsieur Massé eut un mouvement de surprise.
« Malheureux mariage ?»«
Je ne désirais pas me marier, » expliqua Robert.
Mais je possède un père qui veut absolument avoir des petits-enfants.
Pourquoi le contrarier ?
J'ai donc résolu de passer sous les fourches caudines.
Les fourches caudines ? Répéta l'abbé en riant. Représentées par Mademoiselle Lelioran, elles n'ont pas des côtés bien pénibles. Je la connais peu, mais je sais qu'elle est bonne et très aimée.
Je sais aussi, répondit Robert avec résignation, et je suppose que je l'aimerai moi-même beaucoup. Dans 15 jours ou 3 semaines, mon père fera la demande officielle.
Il regarda autour de lui avec un plaisir évident. Il était monté par l'escalier extérieur et avait été enchanté d'entrer dans une petite pièce délabrée, tapissée de livres et dont la fenêtre étroite ouvrait sur la vallée de l'Indre.
Quel délice que ce petit cabinet de travail !
En hiver, vous trouveriez ce délice un peu froid.
J'y ai très chaud, dit Robert distrait.
« Oui, mais nous sommes en plein été, » fit observer l'abbé en riant.
Il examinait son visiteur qui s'absorbait dans ses pensées.
« C'est un homme sympathique, mais quel original !»«
Monsieur, » reprit-il tout haut, « me permettez-vous de revenir sur une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure et de vous demander pourquoi on vous appelle habitant de la Lune ?»«
Pourquoi ? Je n'en sais rien moi-même. » Peut-être parce que je suis un chercheur, un déchiffreur de vieux textes, un amateur passionné de vieilleries. Mais je ne me borde pas à fureter dans les choses du passé, je fouille dans les idées et les sentiments qu'on n'exprime pas, et j'agis en conséquence. J'ai pris une devise qui est un mot connu, il n'y a de vrai que ce que l'on ne voit pas.
Ce n'est pas toujours exact.
Au contraire, toujours. Et comme je ne suis pas bête du tout, je vous assure, je découvre ce que les gens superficiels, qui me traitent comme vous savez, ne découvriraient jamais.
L'abbé rit franchement et crut qu'il allait maintenant être questionné sur Mademoiselle Lelioran, mais Robert n'y songeait pas.
« Je vais donc devenir industriel et, par ce fait, sauver notre cher Philippe. Mais il y a un autre point beaucoup plus délicat que je voudrais élucider. Mouvrier aime ou a aimé vainement ?» L'abbé dissimula sa surprise, bien qu'il faillît être désarçonné par cette attaque directe. « Vous comprenez, monsieur, que si ce sujet intime avait été abordé entre nous, il me serait impossible... »« Impossible de m'en parler, évidemment, mais je chercherai. » Il serra avec effusion la main du vicaire et le quitta sur ces mots. « Vous aussi, monsieur l'abbé, vous êtes, dans votre genre, l'habitant d'un astre éloigné. » Sans tarder, Robert entra à Beaulieu, rédigea une lettre pour son banquier, la porta lui-même à la poste et passa le reste de la journée à flâner dans les ateliers. Il questionna habilement un vieux contremaître et attendit impatiemment le retour de son ami. Monsieur Mauvrier était allé régler une affaire qui ajoutait à ses soucis et, pendant le trajet de Tours à Loches, il envisagea courageusement la douloureuse éventualité de la fermeture de sa fabrique. Fondée en 1705 par un arrière-grand-père à lui, elle avait subi le contre-coup des révolutions sociales et surtout économiques, après avoir connu des époques de grande prospérité. Fort heureusement, les traditions de la famille s'étaient perpétuées sans interruption. Aucun fils aîné n'avait reculé devant le travail et refusé de prendre la direction des affaires. Mais la grosse fortune, acquise par les travaux de plusieurs générations, s'était amoindrie rapidement dans les crises qui nécessitaient des sacrifices d'argent. Philippe, malgré ses efforts énergiques, avait vu son industrie suivre une marche descendante, à peine interrompue par quelques succès. Un emprunt l'eût sauvé, mais, comme le disait l'abbé, il s'était heurté à des refus auxquels il se promettait de ne plus jamais exposer sa fierté blessée. « Je tomberai, se dit-il en revenant à Loches, mais je n'aurai plus l'air de tendre la main. Et cependant, un prêt n'eût couru aucun risque, j'en suis certain. » Robert laissa passer le dîner sans allusion à ses projets et sans questionner M. Mauvrier, mais après le repas, en se promenant avec lui, il aborda le sujet avec précaution. « J'ai flâné dans tes ateliers, Philippe, et j'ai longuement causé avec ton plus vieux contremaître. C'est un homme intelligent. Avec une grande clarté, il m'a appris une foule de choses techniques. Il est très intelligent, en effet, et encore plus expérimenté, et je suis heureux de l'avoir. Il prend grand intérêt à mes affaires. Autant que toi-même, je crois, et il y met plus de vanité, car il rêve leur extension. Je connais ses idées, dit Philippe d'un ton froid, et j'estime qu'il ferait mieux de ne pas les confier aux étrangers. Un étranger, moi ? Pour lui, tu n'es qu'un étranger, mais je ne savais pas que les détails techniques d'une industrie quelconque pussent t'intéresser. On ne me connaît pas, répliqua Robert gravement, et on ignore les ressources cachées au fond de moi-même. C'est du reste le cas de presque tous les hommes, puisque ce sont les circonstances qui mettent en évidence ou en œuvre leurs qualités latentes ou leurs défauts. La plupart meurent, il y a longtemps que ceci a été dit, sans avoir donné la mesure de leurs facultés. C'est vrai trop souvent, dit Philippe, et que de souffrance dans le non-emploi forcé de ses énergies. Ah, je suis bien content que nous partagions le même avis. Dans un instant, tu sauras pourquoi. Mon père, continua-t-il, me reproche de n'être bon à rien, ce qui m'étonne beaucoup par parenthèse, mais enfin, c'est ainsi. Et j'ai un service à te demander. C'est fait, s'il ne s'agit que de ma bonne volonté. Je retiens le mot qui est une véritable promesse. Mon cher, je voudrais devenir ton associé, ni plus ni moins. Malgré son empire habituel sur lui-même, Philippe ne put retenir une exclamation. Pourquoi pas, mon cher ami, reprit tranquillement Robert. Un élève de l'école des Chartes, dit M. Mauvrier, essayant de tourner en plaisanterie la proposition. Un artiste, un fantaisiste, car tu l'es beaucoup, Robert. Devenir un industriel? Tu ris, mon pauvre ami. Moi, je n'ai jamais été aussi sérieux. Et puisque tu me traites de fantaisiste, admets ma fantaisie. C'est impossible, répondit Philippe d'un ton sec qui fit sourire Robert. Rien n'est impossible, et je serai un excellent associé, mais, entendons-nous, un associé d'une espèce particulière. J'aime ta fabrique parce qu'elle est vieille de 2 siècles. En la visitant, en causant avec ton contremaître, j'ai cru comprendre qu'elle aurait besoin d'un sang nouveau. Bref, mon idée est claire et pratique. Je m'associe en te confiant des capitaux, tu achètes, tu vends, tu revends à ta guise et tu fais valoir avantageusement mon argent. » Philippe, dont le cœur battait, répondit d'une voix altérée. « Robert, à qui as-tu parlé aujourd'hui ? Qui donc t'a dit que j'étais au bord de la ruine ?»«
Au bord de la ruine ?» s'écria Robert sans répondre à la question.
« Quoi ? Et tu ne me l'apprenais pas ? Tu n'es pas assez bon ami pour me dire ?»
« Robert, tu passes pour n'avoir pas le sens commun, mais moi je pense différemment. J'ai besoin de 300 000 ou 400 000 francs pour remettre à flot le navire qui s'enlise. Veux-tu les placer chez moi ?»«
Et toujours parce que je n'ai pas le sens commun, j'aurais déclaré avec raison.
Tu me rends service et je ne saurais assez te remercier, car avec une grosse fortune, il est très difficile de découvrir un nombre suffisant de bons placements. »
Arrêté devant l'Indre, Philippe regardait machinalement les rayons du soleil couchant qui se reflétaient dans l'eau, et les bœufs, accablés par la chaude atmosphère, qui se reposaient placidement sur l'autre bord de la rivière. Il avait vu toujours les soirées calmes de la campagne, aimé le tableau simple qui était alors sous ses yeux, mais il ne l'avait jamais regardé avec un tel allègement d'esprit. Son silence fut si long que Robert s'inquiétait. Philippe se tourna enfin vers lui.
J'accepte. J'accepte parce que ma foi dans l'avenir est complète. Mais si j'ai la conviction que tu ne cours aucun risque, ma reconnaissance est aussi grande que si tu me sauvais en sacrifiant ta fortune entière.
Bah, qu'est-ce que cela ?
Cela, c'est le bonheur et la vie d'un homme.
Robert fit un geste d'indifférence.
N'en parlons plus si ce n'est pour mettre les choses au point. Il est bien entendu que je deviens ton associé, associé légal. Je suis fier de ce titre et je vais le crier sur les toits.
Tu as toutes les délicatesses, Robert. Tu devines que le fait seul de te dire mon associé changera ma situation, tout le monde te sachant riche. Tu devines également qu'une association est bien préférable pour moi à un simple prêt auquel tu pourrais te borner.
Alors, c'est entendu ?
C'est entendu. Répondit simplement M. Mauvrier en pressant la main de son ami.
Mais je n'ai pas besoin d'une aussi grosse somme que celle dont tu parlais.
Nous verrons, nous causerons plus tard de ce détail pratique. Il faut que la manufacture revoie ses beaux jours de prospérité.
Et pourquoi ne pas me parler de ton embarras ?
Tu es mon hôte, l'ami que je reçois et...
Tes embarras ne datent pas de mon arrivée, donc tu aurais dû m'écrire.
C'est facile à dire, Robert.
Le jour n'était pas encore tombé et, sous prétexte de se promener, en réalité pour laisser M. Mauvrier à ses pensées, Robert courut à Loche, monta 4 à 4 dans la première enceinte et sonna à la porte du vicaire. L'abbé Massé récitait un chapelet en marchant dans son jardin et il ouvrit lui-même à M. Dautrel.
Je n'ai qu'un mot à vous dire, monsieur l'abbé. Inutile d'entrer dans votre maison. Allons nous appuyer sur le petit mur là-bas. »
Le jeune vicaire, un peu inquiet, suivit Robert et attendit.
« C'est fait, monsieur l'abbé, je suis l'associé de Philippe. J'ai tenu à vous apprendre dès ce soir la bonne nouvelle. »«
Vous ne pouviez pas me rendre plus heureux, monsieur, » s'écria l'abbé. « Je craignais un refus qui m'eût désolé. » »«
Pourquoi eût-il refusé ? Il est sûr de faire valoir avantageusement mes fonds. » Ensuite, il faut croire que les déchiffreurs de grimoire s'entendent à mener rondement une affaire, car elle a été vivement enlevée.
Vous appelez cela une affaire, dit l'abbé ému, alors que le cœur a été votre seul inspirateur.
Monsieur Dautrel, distrait, contemplait la nuit pure qui commençait à s'étendre sur la campagne. Le ciel s'étoilait et il ne l'avait jamais vu d'un bleu aussi profond. Au bas du roc, les maisons à tourelles, les jardins, les masures 4 fois centenaires se dessinaient dans une lumière indécise et l'imagination de Robert, livrée à son penchant favori, regardait défiler les êtres les plus variés. Dans les rues, aujourd'hui silencieuses, passaient devant lui des reîtres ou des polaques, des pages à la toque empanachée, des bouffons aux propos énigmatiques, des rois de caractères si divers qui montaient au château, entourés de femmes et de seigneurs magnifiquement vêtus. Il entendait de gaillardes plaisanteries, il voyait avec mélancolie le doux sourire d'Agnès. Ne parliez-vous pas de cœur, monsieur l'abbé? Sous bien des aspects, il a joué un grand rôle dans votre cité. Agnès Sorel a contemplé ce ciel étoilé, cette campagne tranquille, cherchant les moyens de secouer l'apathie du roi, rêvant à ses amours, pleurant peut-être sur elle-même. Adieu, monsieur l'abbé, nous nous reverrons, je suis bien content. » Laissant M. Masset à son étonnement, car la vision d'Agnès Sorel n'avait pour l'abbé aucune corrélation avec le présent, Robert partit comme une flèche et, rentré chez lui, écrivit à son père une lettre qui se ressentait de son état d'esprit. Loche ressemble à un miroir magique, d'abord par sa puissance évocatrice, ensuite par les découvertes modernes que l'on y fait et qui vous incitent à devenir bon à quelque chose. Je suis, depuis ce soir, l'associé de Philippe et nous allons sortir la manufacture d'une atonie qui menaçait de devenir un sommeil éternel. Imaginez, mon cher père, une grande caserne bâtie sur l'Indre, laide comme toutes les fabriques, sauf cependant les petits carreaux de ses nombreuses fenêtres qui, en indiquant l'âge de cette construction, corrigent sa laideur. Vous conviendrez qu'il est amusant d'infuser une vie nouvelle à la vie d'autrefois, à des ateliers qui ont vu l'industrie des siècles passés, l'activité d'hommes habillés moralement et physiquement d'une façon si dissemblable de la nôtre. Cette pensée me réjouit en dehors du léger service que je rends à Philippe. Il y a dans ce pays un château Renaissance de style très pur que je n'ai pas encore vu, mais que je pourrais louer ou acheter. Sur ce point, je vous rendrai compte de mes démarches dans quelques jours. Monsieur Dautrel, en recevant cette lettre où son fils oubliait de parler mariage, commença par se mettre en colère. Après réflexion, le projet d'acheter un château en Touraine le rassura. « Joli associé, écrivit-il, je ne conseille pas à Philippe de te confier ses machines. Tu les casserais pour y découvrir un homme à perruque. Après cela, je suis content que tu aies tiré Mauvrier d'embarras. J'ai pour lui autant d'estime que d'affection. » Tu parles d'acheter un château là-bas, c'est donc que les événements s'accentuent. L'idée est bonne, ta fortune étant presque tout entière en valeur mobilière. Je meurs d'envie de voir ma belle-fille. Autrelle.